C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
RMC.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, nous sommes en direct comme tous les soirs. Bien sûr, l'After est sur RMC, l'After est sur RMC Sport News à la télé. Et l'After est là pour analyser le match Rennes-Lyon jusqu'à minuit. Évidemment, l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec Jérôme Rantaine ce soir. Salut Jérôme.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et avec Daniel Riolo, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Les gars, faut aller vite parce qu'on attend également Aulas, Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio pour l'autre suspense du soir, la prolongation de Bruno Genesio. La décision pour Pep, bien sûr. Donc, vite, efficacité, l'essentiel c'est quoi? Sauf en Coupe de France, là c'est les 3 points.
L'important c'est l'essentiel.
Le plus important c'est les 3 points.
Et souvent l'essentiel c'est le plus important.
Daniel, tes 3 points de débat ce soir.
Le premier, pour dire que c'est une qualification juste eu égard aux différents événements de ce match et différents faits de jeu également. Le deuxième point, c'est pour dire que, notamment en seconde période, Lyon a à peu près fait n'importe quoi dans son plan de jeu et offensivement. Et le troisième point, c'est une question. Et maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Roger Lanzac avec son cirque sur la décision? Roger Lanzac, pour ceux qui ont oublié, c'était le chef le patron de la piste aux étoiles. Mmh. Un grand monsieur du cirque. Donc c'est Jean-Michel Aulas, le grand monsieur du cirque. Qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Qu'est-ce qu'il peut proposer maintenant?
Après, Jérôme, ce qui s'est passé? T'es 3 points.
Écoute, il aurait voulu le faire exprès, il pouvait pas. On aurait voulu se moquer de lui. On n'aurait pas pu faire mieux que c'est. Enfin, elle est délirante cette soirée pour lui.
Jérôme, tes 3 points.
Le premier, bien sûr, sur le vainqueur du jour, et c'est entièrement mérité. Là, je rejoins le premier point de Daniel. C'est Rennes en costaud. Le deuxième point, c'est l'ambition rennaise de nouveau mis en avant. On a parlé en Europa League, mais là, tu sens qu'il y a ce club a vraiment passé un cap, voire deux caps. Et c'est une équipe qui est vraiment cohérente par rapport à tout ce qu'elle fait, un club qui est cohérent, et ils sont récompensés avec cette finale. Et puis le troisième, bien sûr, c'est la désillusion des Lyonnais. Encore une fois, à domicile, en coupe, que ça soit en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France, elle est incroyable.
Oui, monsieur, et tous les objectifs sont remplis. C'est ce qu'on a entendu toute la semaine.
Je sais pas. Moi, j'attends qu'ils nous disent.
Alors, je vous donne mes 3 points à moi. Moi, je mets premier point. Bravo Rennes. Dans la lignée de ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe, par exemple contre le Betis Séville. Rappelez-vous. Deuxième point. Moi, j'ai mis Fekir parce qu'il va quand même falloir qu'on en parle, parce que tout le monde fracasse Depay depuis quelques semaines.
Ah bah, Fekir, ça fait.
Mais Fekir, ça commence à devenir très inquiétant.
Sa saison. Sa saison.
Et puis troisième point. Tout le monde, j'attends comme vous. Hein. J'attends comme vous.
La
décision.
Bah oui.
C'est rare qu'on ait 3 points sur les mêmes, en fait.
Elle arrive à quelle heure, la décision?
C'est ça qu'on sait pas.
Elle peut tomber à tout moment. Edouard G nous appelle, t'inquiète pas.
Alors, malheureusement, ce qu'on n'a pas là tout de suite, je sais pas si Jeannot est encore sur place, mais c'est la réaction du public à ce qui s'est passé. Est-ce que des banderoles ont été sorties? Est-ce que, puisque c'est une soirée importante à
battre? Écoute, j'ai pas de banderoles, mais j'ai quelques premières réactions sur Direct Studio. Le match de la honte, dit Kev. Cyprien qui nous dit, si Aulas ose prolonger Genesio après ça, je pète une durite. Quelle honte. Bref, donc voilà le un peu. Là, alors attends,
voir Aulas arriver et dire je prolonge Genesio, mais franchement
le écoute, on va voir ce qui va se passer. Il peut aussi dire je le prolonge un peu plus tard s'il remplit un certain nombre d'objectifs, je sais pas.
En plus oui, tu veux dire il va continuer le cirque avec une pirouette de communication.
Je sais pas,
il a le secret,
on va voir. Accueillons Marc au 32-16 qui est supporter de l'OL. Salut Marc.
Oui, bonjour Gilbert.
Salut Marc.
Avant de parler de Genesio,
bonjour Daniel, bonjour Jérôme.
Avant de parler de Genesio, Marc, salut. Dis-nous ce que t'as pensé du match.
Franchement, c'est une horreur. C'est une honte intégrale. C'est une honte intégrale. Je rejoins le point Fekir. C'est vrai qu'on tape beaucoup sur Depay. On tape beaucoup sur Traoré. Bon, Traoré a marqué sans faire un gros match. Mais j'aimerais surtout, avant de parler de Genesio, j'espère que je pourrais dire un mot là-dessus.
Oui.
J'aimerais vraiment qu'on parle vraiment, parce que c'est un chantier qui dure depuis des années. C'est horrible. Je suis supporter de Lyon. Je regarde tous les matchs. C'est une horreur. Pourquoi on a recruté Marcelo? Est-ce que vous avez vu les deux premiers buts?
Marcelo, buts, je rappelle qu'il y a quelques mois, tout le monde le trouvait génial. Là, bon, il fait une saison. Oui, l'année dernière.
À Lyon, beaucoup.
L'année dernière, moi j'entendais, Marcelo, quelle trouvaille exceptionnelle et tout.
Beaucoup disaient, je voyais qu'il avait la charrette quand même.
Ouais.
Là, il l'a définitivement.
C'est Denayer qui fait tout au milieu. Il joue pour 1,5.
Exactement. Denayer, il joue
1,5.
Denayer, ça a été la bonne surprise.
Denayer, c'est une vraie. Parce que lui, il y avait, on pouvait presque.
Denayer, il y avait doute, il jouait jamais, ouais.
Il s'est pas imposé là où il était. Il est parti trop jeune.
Guardiola n'a jamais calculé.
Marc. En fait, c'est un vrai bon joueur.
Un message de Pierre sur Direct Studio. Il dit, en fait, Anthony Lopez a trois poteaux. Le premier, le deuxième et Marcelo.
Ah, mais, et sur le troisième but, je rejoins à dire que sur le troisième but, Marcelo est sur la même ligne que Lopez. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il est attentif. Le premier but reste le plus gros scandale. Le premier but, c'est une horreur. Franchement, Mbanyang, il est à 10 mètres derrière. Il arrive à marquer, quoi.
Ouais, mais.
La tête d'André, qui c'est qui est au marquage?
Juste avant, t'as dû le noter comme moi, je l'ai noté pendant le match, pendant le commentaire, où je disais, mais comment Marcelo défend encore une fois? Il est à 5 mètres de Nyang. Il se fait surprendre, rappelle-toi, sur l'action où Lopez, là, se fait arracher le contrôle de Nyang. Il est à 8 mètres du but. Marcelo, il est à 3 mètres. L'action d'après, pareil, où il se fait devancer et il n'y a pas but. Mais la troisième fois, vu que le centre était nickel et que lui, il fait que subir encore une fois les ballons, il y a eu le but de Nyang, mais Marcelo, il est à l'image de ce qu'il fait depuis des mois. C'est une catastrophe.
Et en plus
Genesio il va nous dire il change de tactique, il joue à trois derrière parce que ça lui donne, mais il le fait pour lui. Parce que les autres derrière, comme ça, ils sont deux à rattraper ces conneries quand le ballon est dans le dos. Mais sinon, excuse-moi, c'est à ce niveau-là, c'est pas possible. Aujourd'hui, il fait un non-match total.
Non, mais c'est scandaleux. Il peut même pas jouer pour un club de Ligue 1, Marcelo. Il est lent. Il est pire que lent. Il est vraiment trop lent.
Mais là...
Et surtout, sur le match, il y a un truc qui est choquant. C'est que quand même, on perd 1-0. On rentre un partout. On s'est dit, deuxième mi-temps, on met les bonnes intentions. Traoré marque direct. Ils mettent un deuxième but direct. Et après, on a quoi? On arrive à avoir quand même contre le cours du jeu. Il y a deux fautes normalement qui auraient dû être sifflées pour Rennes et qui n'ont pas été sifflées. Et franchement, le pénalty, franchement, je suis supporter lyonnais, mais il n'y a jamais pénalty.
Ça, Marc, on y revient tout le temps. Cette histoire, bon, maintenant, on a bien compris que peu importe comment, pourquoi,
dès que ça touche la main, il y a péno.
Dès que ça touche le bras ou la main, il y a péno. Mais l'absurdité. De cette, il faut appeler ça une nouvelle règle parce que c'est une nouvelle règle, fait que j'ai le sentiment qu'on, tout le monde comprend que c'est complètement bidon, mais les arbitres le font quand même. Ils sont dans l'embarras parce que c'est stupide. Qu'est-ce qui se passe 5 minutes après? Il y a main de Zéphane dans la surface. Et là, rien du tout, même pas contrôle de VAR, parce que s'il contrôle, il y a péno encore.
Oui, mais la différence, c'est que Bastien siffle pas. Et où là où
je pense qu'il le voit, Bastien. Il le voit, mais il dit j'en ai donné un, je peux en... Enfin, c'est ridicule.
Cette nouvelle règle de demain est grotesque.
Parce qu'en fait, c'est pas le VAR le problème, c'est qu'on a inventé une nouvelle règle.
Parce qu'il
pourrait très bien y avoir VAR. Et puis on dit, bon ben on regarde. Et puis il dit, ah bah non, ben on voit bien que c'est pas une main qui siffle.
Mais là, il y a eu vérification par le VAR.
Mais c'est ce que je te dis.
Toi, tu dis même sans le VAR. Non, je te dis que c'est avec le VAR.
Non, mais c'est parce que non seulement on vérifie, mais en plus, il y a nouvelle règle.
Oui, je verrai à cause du VAR.
Non, parce que Bastien, bien sûr qu'on peut encore mettre le VAR et là je te rejoins Daniel, c'est que le VAR dans ces cas-là, s'il fait bien son job, la deuxième main de Zéphane, tu la siffles. La première par contre, c'est Bastien qui prend la décision et on le voit sur ses lèvres où il dit, il parle aux deux dans le camion.
Attention, on va aller à Lyon tout de suite. Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas sont ensemble en conférence de presse. On y va. On est en direct, hein.
Oula. Bien, bonsoir à tous. Convenu, j'accompagne Bruno parce que je suppose qu'il y aura un certain nombre de questions. Mais si vous voulez commencer par les questions sur le match, on est là pour répondre à vos questions. La plupart des journalistes sont pas là, ils arrivent.
Voilà, là il râle parce que les journalistes ne sont pas encore tous arrivés. Donc il y a le directeur de la communication, Olivier Blanc, là, qui vient de se faire interpeller par Jean-Michel Aulas. On va évidemment suivre tout ça en longueur.
Attention, hein. Olivier, dis-lui que nous on est là.
On sent de la tension, en effet, à Lyon.
Bon. T'as envie de lui poser quoi, toi, Daniel, comme question?
Moi, je commence direct.
On s'en fout du match. S'il vous plaît. Malheureusement, on n'entend pas les questions des journalistes.
Tu peux devoir dire de Ster, là, parce que sinon, c'est impossible. On m'entend. Putain, c'est pas possible.
Voilà, Bruno Genesio, très énervé.
Beaucoup trop de choses. La première, c'est que dans tout match, de haut niveau, mais encore plus dans une demi-finale de Coupe de France, il faut beaucoup plus d'agressivité, d'engagement que ce qu'on a pu mettre en début de match, en première mi-temps, et aussi éviter de faire des erreurs aussi grossières qu'on a pu faire sur les buts qu'on encaisse.
Genesio part de lui-même, je l'annonce là maintenant. Non. Vous êtes prêt ou pas?
Non.
Il part de lui-même.
Attention, on n'entend pas les questions. Daniel, il faut que ce soit lisible et, comment dirais-je,
voilà, il parle pas,
intelligible pour tout le monde.
Il parle pas. Il est difficile à chaud de savoir si c'est parce que on a été un petit peu pris par l'enjeu. Voilà, moi, je fais le constat. Maintenant, on analysera plus profondément dans les jours qui viennent de savoir les raisons. C'est le plus important, c'est qu'on est éliminé, c'est ça qui est le plus dur, c'est ça qui est la plus grosse déception pour nous ce soir.
Voilà, la conférence de presse commune de Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas en direct dans l'after, puisque évidemment on va en savoir plus sur l'avenir de Genesio dans quelques minutes.
C'est pas la question directe là.
Alors malheureusement on n'entend pas les questions.
Non, mais
des
c'est une immense déception, parce que jouer une demi-finale de Coupe de France à domicile contre une équipe qui était de notre niveau, c'était l'occasion de revenir à Paris pour jouer une finale, et on sait que le club a besoin de revenir dans des matchs de ce type-là, que ça soit en Coupe de France, que ça soit pour les qualifications en Champions League. Donc quand on a l'occasion de, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs aux joueurs avant le match, de pouvoir jouer ce type de match, on n'a pas le droit quand on est sur le terrain de non seulement de pas réussir, mais en plus de pas donner l'impression qu'on allait réussir, parce qu'à chaque fois qu'on arrivait à revenir, malheureusement on a donné l'occasion à l'adversaire de pouvoir prendre l'avantage. Et quand on sait que sur un match la qualification est en jeu, c'est doublement rageant. Donc oui, il y a une grande déception ce soir par rapport à une opportunité qui était une opportunité, comme je l'ai dit, hyper positive. La Coupe de France, on avait joué, je crois que c'est 5 matchs, 3 à l'extérieur, où on avait su eh bien prendre nos responsabilités et gagner. Là, on a joué Caen et puis Rennes, qu'on venait de battre chez lui. Donc voilà, la déception l'emporte sur, je dirais, une analyse peut-être plus poussée de ce qui nous a manqué. Et ça, c'est pas à moi de le faire. Moi, je ne peux que constater cette immense déception. Quelle déception, bien sûr, chez les dirigeants, chez Bruno, chez le staff, mais aussi, vous l'avez entendu, chez les supporters.
Alors, conférence de presse en direct, de Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas.
Vous savez, la colère n'apporte rien quand on a à manager. Quand on a à manager, on a à prendre les décisions à froid. Être en colère à la fin d'un match, bien sûr, ça peut bien faire dans l'expression d'un certain nombre de ressentiment, mais c'est pas ça. Non, il faut analyser ce qui s'est passé, se dire que demain matin on sera pas en finale de cette Coupe de France que l'on souhaitait. C'était un des objectifs importants du club. Donc voilà, bon, il faudra essayer de voir ce qui nous a manqué, et surtout de réfléchir à ce qui va nous permettre d'atteindre ce troisième objectif, qui est de se qualifier pour la Champions League.
Petit message de Vincent à l'époque, il y aurait eu une banderole Riolo entraîneur. Je veux un témoignage, je veux une photo, si c'est vrai, bien sûr, pour illustrer tout cela. Appelez-nous
tout d'abord, je vais vous faire une remarque. Vous posez la question, c'est très bien, parce que vous aviez tous des certitudes. Je trouve désolant sur le plan du mode de fonctionnement de la presse de dire des choses qui ne sont pas la réalité et qui n'ont pas été étayées. Ah. Donc tout ce que vous avez dit était faux, malheureusement. Malheureusement pour Bruno, malheureusement pour le club, et personnellement je suis plus en colère par ce qui a pu être dit sans savoir, tout en laissant penser que l'on savait. parce que c'est un péché, alors là, d'orgueil qui est malsain, parce qu'il met en condition, en fait, non seulement toute une institution, mais tous les supporters qui vous écoutent et vous croient, alors que on a fait un travail qui était un travail extrêmement minutieux d'analyse de tous les cas de figure et aussi de ce qui était le mieux pour l'institution, parce que quand on est président de club, quand on est dirigeant, on n'a pas à choisir en fonction d'un certain nombre de sentiments, d'un certain nombre de feelings. On a à analyser ce qui permet au club, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, d'être le premier club français, et de savoir si, en fonction des décisions qu'on va prendre, on va faire plutôt du bien ou plutôt du mal à l'institution. Et le club, c'est 300 millions de chiffre d'affaires. Ça veut dire que l'année où vous réussissez de manière économique, ce qui est le cas en ce moment, vous réalisez 50, 55, 70 millions d'EBITDA. Bon, je sais que certains n'ont pas la notion automatique de ce que ça représente, mais ce que vous devez savoir, c'est que l'année où ça ne réussit pas, regardez les résultats de Lille ou de Marseille, c'est entre 80 et 140 millions de pertes. Et quand vous avez la responsabilité d'un club, d'un dirigeant, vous jugez pas en fonction d'impression, en fonction de ce que l'on va pouvoir vendre le lendemain dans le journal, vous jugez en fonction de choses qui sont des choses réelles, des choses qui sont extrêmement précises. Dans les choses extrêmement précises, j'avais entendu dire par les supporters que j'ai reçus que quelquefois ils avaient l'impression qu'il y avait moins de monde. Bon, on bat tous les records d'affluence cette année au stade, c'est la première affluence de championnat.
Oui, mais la quand on regarde
la qualité offensive de l'équipe, on se rend compte que c'est l'équipe qui tire le plus au but du championnat devant Paris Saint-Germain, donc ce qui veut dire que les impressions qu'il n'y aurait pas de fond de jeu ou qu'il n'y aurait pas ci, qu'il n'y aurait pas ça sont comme ce que vous avez quelquefois évoqué, c'est-à-dire des chimères qui ne sont pas vérifiées. Donc on a fait un travail extrêmement important. On a rencontré, j'avais rencontré Bruno pour préparer cette décision, et on avait convenu que si nous allions en finale de la Coupe de France, ce qui n'est plus le cas, et si nous étions sur le podium, il y aurait une prolongation de contrat que nous avions discuté de 2 ans. Non pas 2 ans plus 1, bon, comme ça a été dit, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Bon, soit il y a des manières de fonctionner qui ne sont pas celles que j'apprécie, ou alors c'est un jeu, mais un jeu malsain. Donc il y avait cette reconduction, et moi j'étais heureux de proposer à Bruno, parce que je considère qu'il fait du très bon travail. Je considère que quand je fais l'analyse de tout ce qui se passe sur la valorisation des actifs des joueurs, et en particulier des jeunes joueurs, quand je regarde les performances, je vous l'ai dit, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 3 ans et demi où Bruno est là, les résultats sont positifs. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de groupes de supporters qui avaient la sensation d'un certain nombre de choses différentes. Je les ai reçus tous, les plus grands groupes, les tout petits. Donc j'ai reçu les 12 clubs de supporters individuellement. Et j'avais essayé de non seulement d'expliquer quelle était la méthode qui permettait d'arriver à une solution, et une solution juste, une solution équitable, une solution importante pour le club, parce que le plus intéressé à savoir ce que le club va réussir dans le futur, c'est quand même l'actionnaire principal et le manager. Donc voilà, donc malheureusement on n'ira pas à Paris en Coupe de France. Donc le deal que nous avions conclu, et je remercie Bruno d'avoir joué le jeu depuis le début, dans la discrétion, parce que c'est le plus malheureux, parce que il a, comme moi, l'institution dans la peau, il a des performances qui sont des performances, des bonnes performances, mais il est respectueux aussi, on en a parlé tout à l'heure, des engagements qu'on s'était donnés. Donc il n'y aura pas de reconduction jusqu'à la fin de saison, on prendra une décision en fin de saison. Et donc tout ce que vous avez dit, malheureusement, c'était du vent. Je crois que pour l'avenir, des relations entre les gens qui dirigent, qui engagent beaucoup d'argent beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, mais aussi qui ont le sens des responsabilités. Ça doit servir de leçon, parce que nous sommes des gens droits, nous sommes des gens équitables, nous sommes des gens passionnés. On fait pas 32 ans, plus de 2000 matchs, et une responsabilité comme celle que j'assume, sans faire en sorte que le processus soit un processus tout à fait sain, tout à fait raisonnable et tout à fait rationnel. Je peux vous dire que hier on a passé 3 heures avec les 14 membres du comité de gestion. Ce sont tous des gens qui ont plusieurs années de responsabilité comme dirigeants. D'autres sont des anciens joueurs, Bernard Lacombe, Gérard Houillet. D'autres sont des partenaires. Donc ils ont une vision qui est une vision pluridisciplinaire, qui est rationnel, et à l'unanimité ils avaient confirmé ce que je leur avais proposé, c'est-à-dire ce deal. On va en finale de la Coupe de France et on est sur le podium, et à ce moment-là il y a une reconduction automatique à laquelle j'aspirais du contrat de Bruno. On avait discuté de 2 ans. Les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait, donc voilà, donc on va rester en l'état. Bon, je pense que vous ferez votre autocritique pour ceux qui sont trompés en pensant dire aux autres la vérité. C'était faux, c'était une erreur. Voilà, moi je suis catastrophé non seulement de la performance de nos joueurs ce soir, parce que c'est une grande tristesse quand on est président depuis 32 ans d'une institution aussi appréciée que l'Olympique Lyonnais partout en Europe. Mais je suis triste aussi de pas pouvoir vous annoncer ce qu'on avait prévu d'annoncer, c'est-à-dire le fait que Bruno pourrait re-signer 2 ans de manière automatique quand il le souhaiterait.
Voilà. Voilà Jean-Michel Aulas qui annonce donc que Bruno Genesio ne sera plus l'entraîneur de l'OL et que tout s'est décidé ce soir après l'élimination de l'OL, puisqu'il dit si Genesio avait été en finale plus podium, il y aurait une prolongation de 2 ans. On va retourner à la conférence de presse, voir si Genesio réagit. Ouais,
parce que moi j'ai pas compris que ça. Dedans, Gilbert, je suis désolé, tu dis qu'il sera plus là, mais il a pas.
Écoute, tu l'interprètes comment toi?
Bah moi j'interprète que la reconduction.
Retour à la conférence de presse, s'il vous plaît.
Et il ne faut jamais avoir entraîné ou être président de club pour ne pas savoir ce que c'est. Donc, ayant fait cette demande, j'ai réuni mon comité de gestion. J'ai pensé que c'était une demande légitime de pouvoir trouver évidemment une solution. Donc la solution, elle était associée au résultat qui me paraissait logique, aller en finale de la Coupe de France et avoir cette possibilité d'être qualifié par la deuxième ou la troisième place pour la Champions League, parce que économiquement c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Donc voilà pourquoi on avait pris cette décision à la demande de Bruno, et que en général je tiens les engagements que l'on me demande de tenir.
Bon, c'est un peu flou là. Vous comprenez quoi? Que Genesio ne sera plus l'entraîneur ou que la décision est reportée?
Moi, franchement, je trouve d'abord que la conf est très humiliante pour Genesio.
Je veux qu'on retourne, hein. Je veux qu'on y retourne, parce que je veux rien rater.
Peut avoir aussi envie, s'il a d'autres propositions, de ne pas les écouter. Donc voilà, donc c'est une histoire qui sera fondamentalement différente de ce qui avait été prévu, et j'en suis personnellement aussi catastrophé. J'ai aussi une conscience. Une conscience, c'est par rapport à l'institution, parce que vous êtes dans votre vérité, dans votre histoire. Moi, j'ai la responsabilité de diriger un club jusqu'à la fin de l'année qui veut absolument jouer la Champions League. Et c'est vrai que quand on est dans cette situation, il faut pouvoir continuer de motiver tout le monde, le staff, Bruno, les joueurs. Et je sais que Bruno a cette force de caractère qui va lui permettre de jouer le jeu jusqu'au bout. Mais ceci étant, c'est vrai que c'est dommage que ça se passe comme ça.
Donc la décision de Jean-Michel Aulas est reportée. La décision de Jean-Michel Aulas est reportée concernant l'avenir de Genesio.
Le cas échéant, mais il peut aussi s'en aller et ne pas répondre aux propositions qu'on pourrait lui faire.
Voilà, s'il y a proposition, évidemment. Hein.
Non, mais c'est vidéo gag.
Il faut qu'on entende Bruno Genesio, là, absolument.
Parce que là...
Mon souhait, mais je vous l'ai dit, mon souhait était de trouver un accord avec Bruno qui soit assis sur toute une analyse de la performance, de la qualité de jeu et de ce que nous réalisons.
Bon, on va écouter en régie la conférence de presse, et Arthur, notre producteur ce soir, dès que Bruno Genesio prend la parole, nous remettra la conférence de presse qu'on écoute, hein, bien sûr. Bon, à ce stade-là de ces déclarations, donc c'est quand même Donc c'est finalement le but de Ben Sebaïni là qui remet tout en question quoi. C'est ouais. Ça c'est clair, c'est ce qu'a dit Jean-Michel Aulas.
On va raconter un truc très simple qui n'était qu'un gag fait par notre producteur Jérôme Thomas pendant le match. Il rigolait parce qu'on trouvait que c'était tellement absurde que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Quand Rennes a marqué le premier but, il nous a envoyé un message Aulas a rangé le stylo. Quand Lyon a égalisé, il dit Aulas a ressorti le stylo, il s'est amusé à faire ça tout au fil de la soirée.
En fait, c'était vrai.
Nous, ça nous a fait marrer parce que c'est tellement absurde et paradoxal dans la bêtise qu'on en rigolait de ce gag. Mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, en gros. En gros, ça va à la prolongue, il ressort le stylo, il signe. Si à chaque but, chaque fait de jeu...
Alors attention, parce que Bruno Genesio s'est levé, je crois qu'il est interrogé là, on l'écoute.
Pour l'instant, c'est la déception de l'élimination que je vis. Le reste, j'ai toujours dit que les intérêts personnels passaient après le club, après l'institution. Je pense que je vais pas faire exception pour mon cas personnel. Je suis très 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 déçu de ne pas être qualifié pour la finale de la Coupe de France. C'était un des objectifs avec le président qu'on s'était fixé. Et j'en profite pour confirmer ce qu'il a dit. Lorsque j'ai dit que je savais ce que le président allait dire, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Donc il faut faire attention à pas tirer des conclusions trop rapides. Mais c'est pas ça le plus important. Voilà, moi ce que je...
Si vous avez une conscience, c'est quand même important. Hein.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il reste 8 matchs de championnat et que je vais tout donner pour amener l'équipe à la deuxième place. Et pour laisser le club dans l'état que je l'ai trouvé, à savoir qualifié en Champions League. Parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est pas mon cas personnel, c'est de qualifier le club de nouveau pour la Champions League pour l'année prochaine.
Voilà, pour Genesio et Aulas. Donc je résume ce qui s'est dit. Ce soir, Genesio, s'il s'était qualifié en finale, aurait eu une prolongation de 2 ans.
Jouer une finale de Coupe de France, c'est un objectif important.
Mais il y a eu élimination. Donc Jean-Michel Aulas reporte sa décision concernant l'avenir de Genesio. 23h31 sur RMC. On se retrouve tout de suite dans l'after pour analyser tout ça. Et parler aussi de Rennes, bien sûr, ce soir dans l'after. Et puis on vous fait également un petit cadeau. Vous le savez, tous les soirs dans l'after, on vous offre vos tickets pour le tournoi 2 Million Event des Winamax Series. Pour tenter de participer, vous envoyez poker par SMS au 732-16 tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
Jean-Marc, Daniel Riolo, évidemment, on reparle de cette conférence de presse Aulas Genesio. Je vous signale qu'il y a eu un match de folie en Espagne, 4-4 entre Villarreal et le Barça. Il y avait 4-2 pour Villarreal à 5 minutes de la fin. Le Barça a réussi à égaliser. Je vous rappelle que Lyon est éliminé de la Coupe de France. Rennes gagne à Lyon ce soir 3-2. Ce qu'a dit Jean-Michel Aulas, si vous nous rejoignez, il devait prolonger Genesio ce soir de 2 ans en 4 qualifs en finale, mais le but de Ben Sebaïni change tout. Lyon est éliminé, donc Jean-Michel Aulas.
Et la passe décisive de Bruno.
Et la passe décisive magnifique de Bourigeaud, pas faite exprès. Et donc Aulas reporte sa décision. Et cette petite phrase quand même de Genesio qui dit « Je veux laisser le club à la fin de la saison là où je l'ai pris », c'est-à-dire en Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Est-ce que ça sous-entend qu'il ne resterait pas quoi qu'il arrive ?
Moi je me fous de ce que ça sous-entend. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est qu'un gars qui est président, un homme qui est président depuis 30 ans d'un club, qui en a fait une place forte du football français. Je vais pas faire l'inventaire de tout ce qu'il a fait de bien, ce serait beaucoup trop long. Parce que depuis quelques années, c'est n'importe quoi. Eh bien, cet homme-là, la politique sportive d'un club, il la décide à l'aune d'un résultat, un mardi soir, demi-finale de Coupe de France.
Tout en expliquant l'inverse. Lyon. Ce qu'il dit qu'il prend pas de décision en fonction des résultats, mais Lyon, à froid, avec des analyses précises.
Mardi 2 avril, une décision du VAR, un but suite à un raté de Bourigeaud et une frappe de Ben Sebaïni, un raté d'un attaquant, ça décide de la politique sportive d'un club. Tout en disant qu'il ne fait pas ça alors qu'il le fait, tout en disant limite que c'est la faute des journalistes qui ont écrit que Genesio était prolongé et il leur en veut pour ça, on comprend pas trop bien pourquoi. D'ailleurs, il devrait plutôt s'en... Enfin, je sais pas, mais la plupart de ceux à qui il s'en prend, ce sont quand même des journalistes qui l'ont plutôt à la bonne et qui ont en plus encore plus à la bonne Genesio. Hein, c'est le cercle des Lyonnais.
Ce que vit Genesio là.
Sinon, mais moi je suis Genesio, je me lève et je démissionne direct.
Ah ben oui.
Jérôme, qu'est-ce que t'en penses?
Je suis content. Bah,
la mise en scène, les deux, l'un à côté de l'autre.
On peut pas supporter ça.
Parce que
ça. C'est dur ce qu'il lui fait. C'est trop dur.
Il le dit d'une façon où c'est vrai qu'il met devant leur responsabilité, là, les journalistes qui ont annoncé qu'il serait prolongé de 2 ans, c'était avec une option de plus 1.
Ils n'avaient pas tort, puisque c'était ce qui était prévu.
Non, mais en disant que c'était inhumain pour Genesio, parce que c'est pas du tout le deal qui s'était passé. Mais par contre, humainement, ils trouvent que c'est correct ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais c'est une humiliation pour Genesio. Moi, qui le critique au niveau sportif, mais humainement, ça a l'air d'être un bon mec.
Moi, humainement, j'ai toujours dit l'affection que j'avais pour lui. Là, mais de toute façon, moi, j'ai toujours conseillé, depuis qu'il est là. D'ailleurs, je lui avais dit, à lui, la fois, on s'est rencontrés, je lui ai dit, mais de toute façon, je ne sais même pas si on peut réellement parler de tes capacités, de toute façon, la façon dont son club fonctionne, et le fait que tu sois un enfant du club avec Aulas comme tuteur, fait que rien n'est possible. Soit un entraîneur viendra de l'extérieur, pourra travailler, et la façon dont le club là fonctionne, c'est gangréné parce que lui il te met la gangrène, la façon dont il décide de gérer ce club là.
Non mais ce qu'il lui a fait là, Daniel, aujourd'hui, c'est inadmissible.
Pire qu'une humiliation.
C'est inadmissible. Moi, après, c'est plus facile à dire là où je suis, mais jamais j'aurais accepté qu'il fasse un truc comme ça. Et Genesio, à mon avis, il s'est posé la question de savoir, quand il parle, là, il part dans des monologues qui durent pendant 5-10 minutes et tout pour t'expliquer 3 fois de suite ce qu'il t'a dit juste avant. Donc déjà, je pense qu'il perd un petit peu la boule, mine de rien. Donc il faut qu'il fasse gaffe à ça. Et surtout, pour te dire, dans son discours qui dure 10 minutes, qu'il y aura une décision de prise à la fin du championnat maintenant. En gros, c'est ça.
Donc ça veut dire. Il n'a pas été non plus hyper précis, hein.
Mais c'est ce que ça veut dire.
On va pas poursuivre le cirque pour qu'au final, à la fin de la saison, il y ait prolongation de Genesio.
Exactement.
Parce que alors là, on n'est pas à l'abri parce que là, les chapiteaux, il y en a tellement là. Peut-être qu'il va nous faire Bouglione.
Exactement. On n'est pas à l'abri parce que est-ce que Genesio,
la piste aux étoiles,
est-ce que Genesio a la capacité de planter parce que s'il avait eu cette capacité-là de dire ben non, écoute, avec ce que j'ai vécu là, même si tu me proposes quelque chose à la fin du championnat, je te dirais non. Parce que si ça avait été ça, il aurait démissionné aujourd'hui. Avec ce qui s'est passé là, comme ça s'est passé la conférence de presse, mais c'est une honte, et Daniel le disait. Donc la prolongation est liée à une qualification en finale. C'est même pas un titre.
Mais en fait,
parce que pour lui, aller en finale, c'est un titre.
Jérôme,
il n'y a rien depuis 8 ans.
Il y a erreur originelle. Jamais à Lyon, ils auraient dû prévoir de faire cette annonce ce soir, déjà.
Mais ça fait
le coup de l'émotion.
Non, mais déjà ça, j'avais parlé de cirque à ce moment-là.
Attends, je sais pas, vendredi, je sais pas quand.
Le barnum autour de cette décision était grotesque. Là, ce soir, ça a été le bouquet final.
Parce qu'il dit on devait gagner. Parce que lui, il était persuadé, lui et ses 14.
Bien sûr.
Il dit Rennes, qui invente le football.
Rennes, c'est du lait, un verre de lait qu'on va se faire avant d'aller au lit.
Donc
il dit ça
va
être facile. C'est ça qui est affreux.
Mais c'est ça qui est terrible. Et c'est vrai, c'est la vérité. Et c'est terrible depuis des mois. Parce que ça dure. Mais humainement, ce qu'il lui a fait à Genesio, c'est inadmissible. Et alors, en plus, lui faire ça, l'humiliation aujourd'hui, je crois que c'est la pire. Je pense vraiment, j'ai été critique. Et j'étais souvent sur la réserve sur Jean-Michel Aulas, mais là, ce qu'il a fait, il mérite même plus de respect.
Messieurs, s'il vous plaît, restons quand même mesurés dans les propos, évidemment. Mais je précise quand même qu'on va parler de Rennes. Hein. J'ai eu des messages, j'ai dit ouais, du coup, personne ne parle de Rennes ce soir, c'est dégueulasse, me dit-on sur Direct Studio. C'est pas totalement faux. Rennes a fait un grand match, et on aura Thomas avec nous au 32-16 dans quelques instants. Juste avant, on conclut sur cette conférence de presse surréaliste avec Maxime au 32-16, qui est supporter lyonnais. Maxime, bonsoir.
Ouais, salut l'acteur.
Bon, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se passer là ?
Ce qui devait commencer comme une mauvaise soirée se transforme presque en bonne soirée, parce que si on peut enfin ne plus avoir notre ami Pep Genesio comme on l'appelle.
Mais sauf que là, t'en sais rien.
Ouais, on n'en sait rien, mais c'est déjà mieux que ce qu'il disait jusqu'à maintenant. Ça nous laisse de l'espoir pour au moins se dire qu'on a peut-être des jours meilleurs. Moi, comme tout Lyonnais, j'adore Jean-Michel Aulas, hein, c'est très rare que je sois en désaccord avec lui, mais sur le cas Genesio. Pour moi, c'est le responsable numéro 1. On a des résultats qui sont irréguliers. Avec le budget qu'on a, d'ailleurs, d'année, on parle souvent, c'est inadmissible. On ne devrait pas être autant décollé du PSG. On ne devrait pas être en train de galérer derrière Lille jusqu'au bout. Ça fait un gros échec de plus. On a fini il y a 2 ans 4e derrière Nice à 11 points. On a eu le fameux match contre CSKA Moscou à domicile, et d'ailleurs pour moi ça me fait penser au match de ce soir, c'est que c'est pareil, c'est Moscou et le match de ce soir, c'est deux matchs qui sont largement à notre portée, et où voilà, un entraîneur on le juge pour ses résultats, et malgré ce qu'on veut nous faire croire, les résultats ils sont décevants depuis que Genesio est là. Donc voilà, de l'espoir pour l'avenir.
Alors Maxime, merci pour ta réaction. J'en lis 2-3 sur Direct Studio et sur le hashtag RMC Live. Gololo qui me dit que Genesio fasse une Bielsa, qu'il démissionne de lui-même dès ce soir. Et puis j'ai Benoît qui me dit, au-delà de Genesio et de l'humiliation qu'il vient de subir, faut aussi penser aux entraîneurs visés par Lyon qui ont vu ce soir cette affaire et cette conférence de presse. Oui, ça peut refroidir quelques-uns, pourquoi pas.
Il y en a quelques-uns qui, je pense, iraient quand même.
Ah bah oui, Lyon c'est quand même un club qui est très...
Mais bon, attends, il faut quand même le savoir qu'il faut travailler avec Colas et tout, mine de rien, ça va pas les refroidir totalement, mais ils peuvent nourrir 2-3 inquiétudes quand même.
Genesio doit les poser sur la commode, me dit Shones. Que va-t-il se passer? Bien sûr, ce soir, on ne parle que de ça sur les réseaux sociaux de l'After. Et nous, on veut quand même parler de Rennes. Bah oui, parce qu'il faut quand même en parler des Rennais ce soir, qui ont fait un grand match. Thomas avec nous dans quelques instants. Je rappelle que Rennes se qualifie pour la finale de la Coupe de France. Et cette fois, il n'y aura pas Guingamp en face. Et ça peut tout changer. Et
il pourrait y
pour
avoir Nantes
Rennais.
Pour un énorme derby.
Ah, ça, ce serait énorme.
Ce serait ouf.
Demain, PSG Nantes.
Ce serait formidable. Rennais serait dingue.
Vu le PSG contre Toulouse le week-end dernier, je sais pas si...
Ouais, mais coach Valide les a énervés, je crois.
Ah, avec les dégâts sur Tourelle.
Ça va être difficile.
C'est peut-être pas le bon moment. Ouais, là,
parce que c'est au parc, petite... parce que pour l'objectif, Paris devrait pas avoir de problème.
En général,
après, sur la finale et sur un match,
Il peut tout se passer.
Rennes,
non, mais Rennes, c'est cohérent.
Faut vraiment qu'ils jouent pour le faire, le coup, l'exploit après. Enfin, j'espère vraiment qu'ils seront à bloc, là.
Le Stade Rennais au programme dans quelques instants dans l'After, bien sûr. On revient, tout de suite avec vous au 32-7.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo et Jérôme Roten, également Lyon éliminé de la Coupe de France et surtout Rennes qualifié. 3-2 pour les Rennais à Lyon ce soir. Vous avez entendu tout à l'heure la conférence de presse, une partie en tout cas, la conférence de presse commune de Bruno Genesio et de Jean-Michel Aulas. Je rappelle donc que Genesio ne sera pas prolongé dans l'immédiat puisque Lyon est éliminé ce soir. C'est ce qu'a expliqué Jean-Michel Aulas. Il y avait eu qualif en demi-finale, en finale et podium, hein, il a quand même dit et podium.
Il prenait pas trop de risques podium.
Voilà, bon, a priori c'est quand même bien parti. Genesio aurait eu une proposition de 2 ans, mais pour l'instant il ne l'a pas. Thomas est avec nous, supporter Rennais. Salut Thomas.
Bonsoir messieurs.
Salut Thomas.
Ça va Thomas?
Ça va.
Avec Thomas, ouais, tu te rends compte des dégâts que fait Ben Sebaïni?
Je me rends compte vraiment jour après jour, puis surtout match après, parce que franchement il nous a libérés au Bétis. Et là, il nous libère à Lyon. Bon, pour la petite histoire, je suis supporter qui était passé vous voir il y a quelques semaines.
Ah,
En studio, qui avait été piégé, etc. Et on vit une saison folle. Et Ben Sebaïni fait partie des joueurs qui élèvent le niveau de l'équipe. Et on a bien ressenti son absence vendredi, là, au premier match face à Lyon, quand on les a reçus chez nous. Et là, il nous fait une frappe incroyable. En plus, sur son mauvais pied, c'est absolument surréaliste.
Non, mais là, ce qui est dingue dans le scénario du match, c'est que Rennes se fait rejoindre 3 fois
et que 2 fois.
2 fois.
2 fois, ouais.
Et que Rennes arrive malgré tout encore à...
Non, mais ce qui est...
à la ressource encore pour marquer. On disait pendant le match avec Lionel et Jérôme que c'est peut-être finalement l'enfant du match du Bétis. S'ils n'avaient pas connu ce qu'ils ont d'Europe, peut-être que ce soir ils gagnent pas.
Excuse-moi Thomas, je vais répondre à ça, mais c'est sûr que l'expérience européenne t'apporte ça, ce genre de match. La gestion de ce match-là, elle est incroyable de la part des Rennais, parce que déjà ils maîtrisent le match en première mi-temps. Ils ont un premier coup dur à la reprise la deuxième mi-temps, parce qu'ils sont...
Après, sur la seconde période, ils font pratiquement que reculer.
Exactement, c'est ça.
Ils doivent leur salut au fait que les Lyonnais offensivement font n'importe quoi, n'arrivent même pas à se faire 3 passes.
Je suis d'accord, c'était dur en deuxième
mi-temps. Mais dans le jeu, ils ont du mal.
Mais psychologiquement, l'expérience que t'as engrangée tout au long de la campagne européenne...
Le côté on tient, on est combattant, on est vaillant, oui, ça oui.
S'ils n'avaient pas eu ça, ils auraient jamais remarqué le troisième. Je pense qu'ils seraient même effondrés, parce que là, au bout d'un moment, il y a même la frustration de se rendre compte que Monsieur Bastien, il a plus penché du côté des Lyonnais au bout d'un moment. Deuxième mi-temps, il sifflait que pour les Lyonnais.
Et... Surtout le pénalty.
Le pénalty, il est offert.
À mon sens, il n'y a jamais pénalty.
Il est offert.
Il est offert. Je veux dire, Benjamin Henry, il peut pas se couper les bras non plus. Donc
exactement. Mais moi, j'aime ce groupe de Rennes, ces joueurs là qui arrivent à se surpasser. En effet, il y a Ben Sebaini là qui est surprenant vraiment. Mais il y en a d'autres. Hein. Sarr, il a encore même fait une très belle première mi-temps.
Ah, mais Benjamin Henry.
Niang a été très bon.
Niang est super régulier.
Niang a vendangé une action à un moment où on peut vraiment tuer le match à 3-1. Il a une action où il est tout seul devant sur un débordement.
Ah oui, oui. Là, je sais pas ce qu'il fait avec son pied gauche là. Mais compliqué. Mais effectivement, en plus la passe de Sarr est comme il faut, très puissante.
Ouais. Elle est parfaite.
Tendue et.
Ah oui, en deuxième mi-temps là. Il a coupé là.
Il la coupe. En plus, il prend de l'avance. Il fait juste ce qu'il faut le défenseur.
Il faut juste la dévier. Il veut la mettre fort.
Mais surtout, il peut pas jouer. Il a joué pied droit celle-là.
Ouais, en plus c'est son bon pied, il reçoit une déviation comme il a fait sur le premier but là où il vient percuter le ballon
avec le pied gauche, essayer de mettre un plat du pied de l'endroit où il est, il peut partir que de l'autre côté.
Mais forcément. En tout cas, bon, il rate cette action là, mais même lui, c'est surprenant ce qu'il fait sur sa saison. Au début, j'aurais pas mis un cachou sur lui. Quand je voyais les matchs de Niang, je me disais mais c'est pas possible.
Niang a un peu cette réputation, mais sans vouloir être méchant ou quoi que ce soit, mais d'être un joueur un peu bête, c'est-à-dire que dans le jeu, je parle, où c'était quelqu'un qui vendangeait énormément, qui ne se concentrait que sur son propre jeu, sans se soucier de l'équipe. Et maintenant, enfin moi, j'ai découvert vraiment ce joueur cette année à Rennes. Je le connaissais un peu d'avant, mais cette année, il fait beaucoup d'efforts pour le collectif puis il est de plus en plus régulier. Il fait plutôt une bonne saison.
La deuxième partie, elle est très bonne.
Plutôt une bonne saison. Et puis il y a un autre joueur. Alors moi, j'avais remarqué.
En revanche, c'est Sarr qui, je trouve, a baissé ces dernières semaines.
Ouais, ce soir, j'ai pas trouvé rien.
Il a un peu à bout de souffle. Moi, je trouve, à mon sens, il a un peu à bout de souffle. Et dans le système dans lequel on utilise, où on joue uniquement le contre, alors c'est ça aussi son principe de jeu, hein, de courir devant pour aller chercher les ballons. Mais je pense qu'à la fin, je pense que ça va être quand même assez usant. Mais il y a un joueur qui nous a manqué vendredi soir à Rennes, c'est Benjamin Bourigeaud. Il fait pas un match incroyable ce soir. Mais il est là quand même pour distribuer les ballons, il récupère, il oriente plutôt bien le jeu.
Moi, je pense qu'il vous manque un truc, c'est un grand gardien.
Ouais, Thomas Koubek est beaucoup déclé, je peux le reconnaître. Non, c'est pas un joueur exceptionnel. Non, je reconnais que c'est pas le meilleur gardien qu'on ait pu avoir.
Benoît Costa l'année prochaine.
Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on a pris Loïc Badiachil qui venait de Monaco, qui paraît-il était plutôt un bon gardien, qui est un jeune gardien qui doit avoir 20 ans. Et qui ne joue pas. Il joue le rôle des doublures, alors qu'on avait Abdoulaye Diallo qui occupait le poste. Mais le petit jeune Badiachil, je crois qu'il est prêté avec option d'achat.
D'alternance coupe championnat en l'occurrence.
Contrairement à Paris où il y a un peu de turnover à ce poste-là.
Projette-toi un peu sur la finale là maintenant que ce match de ce soir est passé et magnifiquement géré par les Rennais. Comment tu vois la suite là? Tu repenses direct au traumatisme des finales perdues ou tu te dis Ben Arfa, de Niang, ça peut le faire contre n'importe qui?
Non, pas contre n'importe qui. Contre Nantes, ça peut le faire, évidemment. Surtout contre Nantes. Après, forcément, avec toute cette malchance qui tourne autour des coupes et le club, on va avoir un peu peur au départ, je pense. Mais bon, après ça, si on tombe sur Paris, on va faire ce qu'on peut. Hein. Clairement, on va pas se mentir. Paris est tellement au-dessus que ça va être très dur. Mais on va y aller quand même. On aura beaucoup de supporters. On sera tous ensemble pour y aller. On l'a fait face à Arsenal au match aller. On l'a fait au Betis. Alors, c'est pas le même niveau, je le reconnais. Mais je dis pas qu'on a
quoi qu'il arrive en tout cas, quelle saison de Rennes,
incroyable, puis bon, un peu de déception quand même sur le match retour face à Arsenal, mais en tout cas si on arrive en temps, là on est en finale. Que ce soit face à Nantes, ce sera un match superbe et on aura beaucoup plus de chances que face à Paris, c'est clair et net. Comme disait Daniel, si Rocco Siffredi sonnait chez moi ce soir, je mettrais peut-être pas une pièce sur Rennes, mais bon, voilà, on en dit croire.
Le jeu a plutôt tourné du côté où il fallait pas que ça tourne.
Personne n'y croyait et finalement. Non, on a pris un peu tout le monde de court.
Ouais, puis maintenant, Rocco, il était tellement venu plein de fois chez Daniel que maintenant il s'en fout. Hein. Il peut prendre.
Merci Thomas en tout cas.
Merci à vous, messieurs. Ouais.
Salut, à bientôt.
Quand est-ce que c'était
Daniel? Non, une fois.
Il est venu qu'une fois. C'était pourquoi j'ai oublié quel match.
Une fois, ça suffit pas.
C'était pour Rennes Bétis. Justement, c'était pour Rennes Bétis.
Ouais.
Le match retour.
Mais il paraît que ça suffit une fois. Moi, on l'avait dit quand il passe une fois. Après.
Tiens, les supporters rennais nous réclament un petit Salma. Bon, pour le plaisir, c'est parti.
C'est la soif des Rennes.
Voilà, ce soir, c'est la soirée de Rennes. Tweet intéressant de Nicolas Villas. Mais pourquoi, nous dit Nico, si les conditions de la prolongation de Genesio étaient une place sur le podium et une autre en finale, avoir promis une réponse fin mars? Bah oui. Dans ces cas-là, dit que t'attends la fin de la saison d'entrée.
Et oui, c'est pour ça qu'on dit que tout est absolument incohérent
dans cette communication.
Ouais, bah. Je le dis depuis des mois, des années, que la communication de Jean-Michel Aulas, contrairement à ce que tout le monde, vous êtes là à me bassiner depuis des années, l'expert en communication, j'arrête pas de vous dire que c'est des gogoteries. Depuis des années, je vous dis qu'il est complètement à côté de la plaque.
Je pense qu'il a poussé le vice jusqu'au bout. Tu veux que je te dise?
Il n'y est plus du tout. Il n'y est plus du tout.
Il n'y avait pas de podium ni rien parce que c'est ce qu'on disait. Là, pour lui, ce match, il était déjà gagné. Et que quand il annonce fin mars, pour répondre à ce que disait Nico, quand il annonce fin mars au départ, ça tombe sur un week-end, alors après il décale au 2 avril. Pour lui, il n'y a pas de question Coupe de France, pas Coupe de France, pas finale, pas ceci. C'est que il est persuadé qu'il veut prolonger Genesio. Sauf que sur les dernières semaines, ce qui s'est passé entre tout ce qui s'est dit, parce que à cause de lui, prolongation ou pas de Genesio, là, tous les mecs qui s'étaient un peu contre Genesio, sont montés en puissance. Et surtout, il se dit aujourd'hui après. Ça devait être prévu avec Genesio. Je suis sûr qu'il y a une semaine, alors, quand il a vu Genesio, Gilbert, il a dû dire, écoute, sortir contre Rennes chez nous, franchement, là, je peux pas annoncer ta prolongation. Je suis dans la merde. Mais oui. Et on va imaginer un scénario. Et ben, c'est ce qui s'est fait.
Rappelle quand même, c'est Genesio qui avait demandé à ce que la décision, il voulait d'abord une décision plus tôt. Jean-Michel Aulas a repoussé. Et c'est Genesio qui a demandé à Aulas d'être fixé assez rapidement. Donc finalement, ce timing-là, il a aussi été mis en place à la demande de Genesio.
Ça a ni queue ni tête.
Ce qui peut laisser aussi penser que Genesio, qui bosse avec Xavi depuis quelques semaines, ça ne vous a pas échappé, a peut-être aussi d'autres propositions dans les tuyaux.
Toute la com, elle est catastrophique. Et la com, en plus de ce qu'il nous a dit ce soir, elle est de pire en pire. Parce que rappelle-toi pourquoi il voulait annoncer changement ou pas d'entraîneur pour préparer déjà le recrutement de l'année prochaine. Là, qui c'est qui va le faire, le recrutement? C'est Jean-Michel Aulas avec ses 14...
Avec Florian Maurice, qui n'est pas dans le comité de gestion.
Ah bah ouais, bah
surnommé à Lyon le comité de digestion. D'accord, vous expliquez Edouard Gilles, parce qu'en fait, Jean-Michel Aulas décide et les autres disent OK.
Si tu me permets juste un petit élargissement, la saison des trois clubs phares de notre football est quand même assez terrible. Pas que sur le terrain. En termes de gestion, de politique sportive.
Donc là, tu parles de Paris, Marseille, Lyon, hein, le fameux Paris, PLM de Fred Antonetti.
C'est-à-dire, c'est un concours de ridicule. Dans les trois clubs, va falloir quand même que les mecs se ressaisissent, parce que vraiment, c'est terrible. Hein. Tu prends les trois cas, t'analyses les trois cas, c'est tu peux même pas faire un classement. Hein. C'est très difficile. Hein.
L'after est fini, j'ai même pas eu le temps de vous parler de Pelé qui a dit qu'Mbappé allait gagner le ballon d'or et allait marquer 1000 buts. J'ai même pas le temps de vous parler de la fédé allemande où le président s'est barré parce qu'on lui a offert une montre. Il y avait plein d'infos aujourd'hui, mais...
Pour une montre?
Pour une montre.
Oh merde.
C'est comme ça en Allemagne.
Une belle montre ou pas?
Tu prends une montre à 6000 boules, hop, tu démissionnes.
Ouais.
Ah oui.
Une seconde.
Je voulais faire une petite annonce importante.
Ouais, je fais une annonce parce que suite à ce que j'ai lu hier, que le parquet de Paris avait ouvert une enquête concernant Patrice Evra. Moi, j'avais décidé aussi, mais bien avant, avec mon avocat, de porter plainte. Donc voilà, la plainte, elle est partie, elle arrive et donc c'est en cours pour menaces, insultes, forcément. Ce qu'il a fait, ce qui est inadmissible. Maintenant, on verra. La justice décidera. Voilà.
L'annonce est faite, donc Jérôme qui porte plainte
avec l'oseille des bras, hein.
Contre Patrice Evra.
C'est pas le but, mais le but, non, mais bien, le but, bien. Il est très clair.
Non,
c'était une honte pour moi.
Tu as raison.
Ce que j'ai subi derrière, c'est incroyable. Ma famille aussi, parce qu'elle est touchée, donc j'étais obligé.
Nous te soutenons.
Voilà, les deux vidéos m'ont fait beaucoup de mal.
Que la justice.
Jérôme, tu as tout le soutien de l'after, tu le sais. Voilà. Et on te retrouve avec plaisir demain soir avec Daniel également après l'autre demi-finale entre le PSG et Nantes. Rennes est le premier qualifié pour la finale de la Coupe de France. Bonne nuit à tous et à demain soir dans l'after.
RMC, l'after foot.